Retrouver. Oui. Bon. Alors, me retrouver avec vous tous et je vous apporte bien sûr un très grand bonjour de la part de maman et papa. Vous les connaissez bien sûr, Dale et Imogen McAnulty, qui étaient là de 65 jusqu'en 1980, je crois. Ils avaient aidé à établir l'église avec le Richard Andrzejewski, le père. Et après, ils étaient partis aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Puis après, ils sont passés en Roumanie pendant une vingtaine d'années. Puis là, ils ont pris la retraite juste à côté de chez nous. Et ça va plus ou moins bien, la santé, tout ça. Mais on est très content de les avoir juste à côté. Ils voient leurs arrière-petits-enfants courir partout. Et ça les rend un peu plus jeunes aussi. Donc, ils m'ont imploré de vous dire un grand bonjour, de grosses bises à tout le monde. Et ils me demandent toujours quand je rentre, comment va un tel et tel, un tel. Vous êtes très proche de leur cœur. Le passage que, c'est, en fin de compte, c'est pas le passage que je vais utiliser pour la leçon, mais c'est un passage qui inspire peut-être le thème de la leçon. C'est le passage, le verset du jour, Jean 17, 21. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est cette idée d'unité. Je crois que je parlais à Nelly hier et puis elle me disait, je ne sais pas si c'était un poème ou un truc, mais elle parlait que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un vers l'autre, mais regarder ensemble dans une même direction. Ah, Saint-Exupéry, ah oui, c'est presque la Bible d'ailleurs. oui, et précisément, c'est cette idée de regarder en avant. Donc, quand je pense à l'unité, c'est un peu ça. Dans ce passage, il nous dit très bien que notre témoignage, en fin de compte, que notre témoignage à ce monde vient en partie de notre unité, de comment on est les uns avec les autres. Et c'est un monde qui a désespérément besoin, en fin de compte, d'amour, d'unité, de paix. C'est un monde qui se déchire, quoi. Bien sûr, il y a les grosses guerres entre les pays, entre les nations, entre les groupes. Il y a le terrorisme, il y a les conflits qui détruisent le foyer, les mariages. C'est vrai que le conflit, c'est vraiment quelque chose qui nous fausse, quoi. C'est vraiment une... et lui, Jésus, dans sa prière, il pense à nous, il pense à ceux qui vont croire dans le futur. Il dit, ma prière, c'est qu'ils soient un. Et quand je pense un peu à l'unité de l'Église, c'est un peu comme quand je regarde dans le miroir le matin. Il y a un côté de moi qui dit, super, parfait. Couldn't do any better. C'est top. Puis il y a l'autre côté qui dit, oui, mais par contre, les cheveux, je ne sais pas si... On voit les défauts, ouais, bon, je suis pas mince, mais pas très baraqué non plus. Hein. On voit les défauts et ce qui est bien sûr plus important que le miroir, c'est même quand on se regarde soi-même. On fait un constat, on dit bon, bah, voici mes forces, voici les choses que je fais bien, voici les. Mes côtés assez bien. Puis voici mes fautes, voici mes péchés, voici les trucs qui ne sont pas si bien. Et j'ai la même impression quand je regarde l'Église. C'est que, surtout quand je suis là, bon, non, on ne peut pas pleurer. Ben, il y a le côté magnifique, magique, si beau de l'Église, de l'unité de l'Église. Cette Église m'a formé. Oh, je suis un grand pleureur, moi. Mais c'est vrai, je regarde Hubert, Yvette, et Daniel, mes anciens, et puis bien sûr Nelly, et tant d'autres. C'est votre exemple de fidélité, d'amour, d'acceptance qui m'a formé. Moi, oh là là! Et tous les autres. Et puis c'est l'amitié. Richard, Pascal, Patrice, Patrick, et tant d'autres, Lydie, Puis les petits, le petit Pierre. C'est cette camaraderie où ce n'était pas tout simplement des copains qui jouaient ensemble, c'était des copains qui jouaient ensemble, mais qui essayaient de suivre le Seigneur ensemble. Ça nous forme, hein? Et quand je regarde cette église, pas simplement l'Assemblée de Lille, mais cette église un peu partout, notre famille d'église, je peux aller à une église à Paris, ou à Genève, ou même au Texas. On est à Kansas et on se retrouve cette foi commune, cette espérance, cette conviction dans les Écritures. Il y a une unité là, une unité qui nous rend fort, qui est exemplaire. Et comme dans le miroir, quoi, on voit aussi les fautes. C'est vrai que le conflit, hein, ça fait partie de nous aussi, les conflits. On a du mal à s'entendre. Parfois, si on est dans un groupe, on est frères et sœurs, et puis on n'est pas tout à fait d'accord sur des trucs qui... Ah, il y a des conflits. Je ne connais aucune assemblée où il n'y a pas des conflits constants. Et ça me rend si triste. Parce que voilà, Jésus dit, dans le futur, le monde va savoir que moi, je viens de toi, mon Père. Parce que mon Église, ils verront qu'ils sont un. Ils verront cette beauté dont on a parlé. Et donc, il faut régler quoi, nos conflits. Donc, c'est entre nous. Parfois, c'est entre assemblées. Ouais, cette assemblée-là, ils sont un peu trop ceci. Oh, non, ils sont trop cela. Puis on se méfie parfois les uns des autres. Et bien sûr, on ne parle pas des grosses déchirures maintenant dans le monde du christianisme. On est en quoi? 400, 500 dénominations, groupes différents. Je veux dire, ça me fait du mal. Vous aussi. Ça fait de la peine de dire, on est le corps de Jésus, on est sa représentation sur cette terre qui se déchire, qui... Oh, c'est le désastre parfois. Bon, je suis psychologue, moi, que la tristesse, moi. Mais il faut constater, quoi. Le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin d'un sauveur, pas tout simplement pour sauver nos âmes pour l'éternité, mais pour nous sauver ici, dans le concret. Comment sauver nos familles? Des relations de père et fils, de mère et fille, de mari et de femme, de voisins. Comment résoudre nos différences entre groupes religieux, entre groupes ethniques, les noirs, les blancs, les chrétiens, les musulmans? On a tant mal. On a besoin d'un sauveur pour nous montrer. Et il a dit, bah oui, bah c'est vous, c'est vous. C'est moi le message, bien sûr, Jésus. Mais c'est vous, vous êtes mes représentants, je vous fais confiance. C'est un poids lourd. Donc, je voudrais tout de suite dire que l'unité, ça ne vient pas de nous d'ailleurs, ça vient de Dieu. C'est lui qui crée l'unité. Et que l'unité, ce n'est pas une étape où on arrive, c'est un travail qu'on continue de faire. On y arrive, on dérape, on y arrive, on dérape, ah, on y arrive, on essaie d'y arriver. Donc, je comprends ça très bien. Mais ce dont je voulais parler un peu ce matin, c'est sur ce thème. En fin de compte, c'est bon, je suis psychologue, donc je vais parler un peu où des recherches psychologiques rejoignent des vérités spirituelles, des vérités bibliques qui ont été là tout au long, quoi. Mais parfois, c'est quelque chose d'en dehors qui nous... Ah, tiens, j'avais jamais vu ça dans les Écritures. C'était là. Et donc, je vais parler d'une chose que moi, je crois, nuit à notre unité. Bon, ce n'est pas la seule chose. Peut-être même pas la chose la plus importante. C'est une chose que moi, je songe, je médite un peu là-dessus, j'y pense, depuis un bout de temps. Et en fin de compte, bon, on va lire le passage, et puis je reviendrai là-dessus. Mais c'est pour dire que l'unité, un des grands défis, c'est qu'il y a un équilibre à trouver, une tension. Des tensions, ben, le christianisme en gros, la vie chrétienne, c'est des tensions, quoi. La tension entre le courage et l'humilité. C'est dur d'être les deux, hein, humble et courageux. Le courage entre le zèle et la patience. C'est dur de faire les deux. Mais c'est ces tensions. On ne peut pas aller carrément d'un côté ni de l'autre. Et pour l'unité, le thème en gros dont je voudrais parler, c'est que pour être uni, il faut un équilibre entre une tension où on affirme, on aime, on protège l'individu, la personne individuelle. Et d'un autre côté, il faut aussi protéger le groupe, pas que l'individu. Et souvent, c'est très difficile de faire les deux. On protège soit l'individu, le groupe peut souffrir, on protège le groupe et l'individu peut souffrir. Bon, on va expliquer ça. Donc, dans ce passage, j'ai déjà perdu. Je ne l'ai pas donné, c'est Luc. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien, qui avait invité Jésus, vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche, et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle !» répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle m'a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire, en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Donc dans ce passage, on a un pharisien. Et les pharisiens, de fait, ils représentent une des tendances dont je voulais vous parler. Mais il faut dire que les pharisiens, parfois on les juge un peu trop durs. D'ailleurs, une fois j'ai fait une étude du Nouveau Testament entier, enfin des évangiles, pour essayer de vraiment me voir moi-même, essayer de vraiment grandir. Et je regardais comment les gens réagissaient-ils envers Jésus. Et c'est hyper net. Hein. Il y a les gens comme cette femme qui se jettent à ses pieds, qui sont humbles, qui sont vraiment... ils acceptent tout de suite. Et puis après, il y a les pharisiens. Ils sont toujours, oh, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, dans les Écritures, on dit ceci. Et moi, je me reconnais toujours chez les Parisiens. Hein. Toujours. J'aimerais bien être ceux-là, mais si je suis là, moi, je suis toujours, oh, mais non, Pierre, mais non, il y a un autre truc à faire, là. Je pense toujours à l'autre côté, quoi. Je suis toujours un peu dans la critique. J'essaye pas d'avoir un esprit critique, mais c'est toujours, ouais, je sais pas. Puis bon, attends, on va voir. Même si, ouais, enfin bref. Donc je me retrouve. Et les disciples, en fin de compte, ils sont aussi souvent comme les pharisiens. Et la seule différence entre les disciples et les pharisiens, c'est que finalement, ils se laissent influencer par Jésus. Petit à petit, parfois c'est deux pas en arrière, un pas en avant, et trois pas en arrière, et puis on reste là, et puis on revient. C'est tout doux, c'est lentement. Mais ils se laissent influencer par Jésus, et ils commencent à l'imiter, et finalement ils obéissent. Mais c'est un peu ces deux. Donc, les recherches psychologiques dont je vous parlais, il y a un psychologue qui s'appelle Jonathan Haidt, il habite, il est prof en Virginie, où le frère de Nelly habite, très intéressant, il s'est mis à la recherche parce qu'il a constaté, on vit dans un monde, surtout aux États-Unis, où on est très, très, très divisé. Très divisé par la politique. Mais il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de... C'est un mot correct pour dire on se gueule dessus. On s'engueule, c'est correct? Ok, d'accord. On s'engueule, on peut dire ça à l'église, c'est super. Non, mais c'est vrai, on se lance des mots, mais on ne s'écoute jamais, on ne s'entend pas. Et les autres, c'est les démons qui vont détruire l'Amérique, quoi. Si du côté d'il arrive, bah oui, Trump, c'est le démoniaque, bon, il faut avouer quand même. C'est le gars qui va détruire les États-Unis. Mais si du côté de Trump, tu dis, ah, mais il arrive, c'est la fille du gars elle-même. Tu vois, il n'y a pas de discussion du tout. Et il a dit, mais on voit ça dans la politique, mais on voit ça aussi dans d'autres choses, dans la religion, bien sûr. Donc il a fait des études, et il a fait des études dans tous les pays. Donc vous pouvez même aller sur son site et répondre à des questionnaires. Et lui, ce qu'il a trouvé, en gros, je vais résumer très rapidement, parce qu'on ne va pas trop s'attarder là. Ce qu'il a trouvé, c'est qu'en fin de compte, on prend tous des décisions, on arrive tous à une décision, enfin c'est une décision, c'est peut-être pas le mot correct, enfin, on a tous un sens de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est correct. C'est le jugement moral. On forme des jugements tout le temps. Ça c'est bien, ça c'est propre, ça c'est sale, ça c'est pas bien. On le fait tout le temps, on le fait tous. Et on n'est pas toujours très conscient. D'abord, le sentiment vient d'abord, et parfois les pensées viennent après. Ah oui, c'est parce que ceci, parce que cela, mais en fin de compte, vous avez déjà décidé. C'est automatique. Et il a dit, il y a cinq fondations, en fin de compte. Cinq fondations sur lesquelles tout le monde, en gros, décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le premier, c'est le bien. Faire le bien aux autres. Très biblique, hein? Faire du bien aux autres, ne leur faites pas du mal. Tout le monde est d'accord. Tout le monde accepte celui-là. C'est important. Le deuxième, c'est être équitable. Il faut que les choses soient équitables. Si moi, j'ai le droit au travail, toi aussi, tu as le droit au travail. Si moi, j'ai le droit à l'assurance médicale, ben, toi aussi, tu as le droit à l'assurance médicale. Il faut qu'on ait tous... Si moi, je peux envoyer mes enfants à l'école, ben, toi aussi, tu devrais pouvoir envoyer tes enfants à l'école. Il faut qu'on ait tous les mêmes droits et on devrait donner les mêmes possibilités, les mêmes droits, les mêmes opportunités à tout le monde. C'est juste. On est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Les gens qui se limitent à ça, typiquement, sont les libéraux. C'est les seuls. C'est les seules fondations. Donc, du côté libéral, c'est-à-dire politique, ils voient toujours ça. C'est les deux plus importantes. Avoir les seules importantes. Après, de l'autre côté, donc moi, je dirais ça, c'est le groupe que bon, on peut être entre deux, les groupes, hein, je ne veux pas forcer les choses non plus. Mais c'est-à-dire, ici, c'est un peu, c'est où l'individu, la personne individuelle est affirmée. Je ne veux pas te faire du mal à toi, mais tu ne peux pas du mal à moi, tout va bien. Moi, je veux des possibilités, toi, tu as les mêmes possibilités. Allez, tout est bien, on ne fait pas du mal, chaque individu a le droit de grandir, de s'épanouir. Voilà. De l'autre côté, c'est la protection du groupe. On dit oui, c'est vrai, tout le monde va pouvoir s'épanouir, mais quand même, il ne faut pas nuire au groupe. Donc pour eux, il y a une des fondations, quoi, le jugement moral, c'est l'autorité. Oh, on ne peut pas faire du n'importe quoi, chacun fait son propre truc, il faut une autorité. Donc de ce côté, il dit, ouais, il faut l'autorité, la police, ou dans l'église, bien sûr, les anciens, l'évangéliste, il faut quand même une autorité. De ce côté-ci, ils disent, ah oui, mais l'autorité, il faut faire attention, hein. Parfois, elles ne sont pas tout à fait sans préjugés, hein. En Amérique, hein. Si tu es un blanc et tu cours quand la police elle t'interpelle, bah, tu ne vas pas te faire tirer dessus. Hein. Et si tu es noir, bah, les chances augmentent assez. Donc, de ce côté, ils disent, fais gaffe quand même. L'autorité, c'est bien, mais aussi, ils disent, bah, non, il faut l'autorité quand même. Il faut défendre la police. Oui, ils font des erreurs, mais quand même. Hein, c'est une différence. Quatrième fondation. De ce côté, c'est la loyauté au groupe. Il faut être loyal à notre groupe. Donc, je protège mon groupe. Donc, par exemple, en politique, c'est facile. Par exemple, oui, on veut faire du bien aux immigrants, aux réfugiés, mais quand même, il ne faut pas perdre la France. La France, c'est la France. On a leurs valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu une loyauté à notre groupe, notre culture. Et la dernière, la cinquième, lui, il appelle ça la pureté. C'est un peu que nous, on a des valeurs, on a des caractéristiques qui sont les nôtres. Et si vous ne les avez pas, vous ne faites pas partie du groupe. Si vous les avez, vous faites partie du groupe. Bon, parfois, ça peut être pas très bien. Vous êtes blanc, vous êtes dans le groupe, vous êtes noir, vous ne l'êtes pas. Bon, ça, c'est pas très bien. Mais les pharisiens, c'est ça qu'ils étaient comme ça en fin de compte. Mais ils étaient un extrême. Mais il ne faut pas trop les juger d'une manière trop négative, parce qu'en fin de compte, eux, ils voulaient protéger le groupe. Ils voulaient protéger la religion juive authentique. Ils voulaient revenir à la Torah. Ils voyaient quand même que le peuple juif, avec tous ses exils, ça avait pas mal dérivé. Les gens faisaient un peu de tout et de rien au niveau de la foi, et eux, c'était les purs. Ils reviennent aux Écritures. Mais ils ont été loin. Donc c'est pour ça, ils voient une femme pécheresse, ils disent, ben, c'est Israël après tout, on est le peuple de Dieu, la Torah est assez claire, net, hein. Pas d'adultère, il faut lapider les gens s'il y a l'adultère, mais il faut régler nos problèmes quand même. Protéger le groupe. Mais Jésus, Jésus, on va trouver qu'il est... Je fais un pas en arrière. Jésus, en fin de compte, il est un pas entre deux. Le pas en arrière, ce que j'allais dire, c'est que chez les libéraux, du côté politique, enfin, j'utilise pas ce mot d'une manière négative, mais pour décrire quoi. Normalement, ces deux valeurs sont en avant, et ces trois-là sont presque à zéro. Pas à zéro, mais presque. Chez le côté plutôt conservateur, ces trois valeurs-là sont aussi hautes que ces deux, et souvent, elles deviennent un peu plus hautes. Donc si ça protège le groupe, on peut faire du mal à un individu, en fin de compte. Parce que ça protège le groupe. Donc Jésus, il rentre là-dedans, et je crois qu'on va voir ça dans ces passages. Parce qu'en fin de compte, il dit, ah oui, j'affirme, hein, j'affirme l'autorité des Écritures, l'autorité des prophètes, bien sûr l'autorité de Dieu. J'affirme que cette idée de pureté, qu'il faut être pur. Et j'affirme qu'il y a un groupe, qu'il faut protéger ce groupe. Mais je vais quand même baisser ça un peu, parce que je vais toujours me concerner avec l'individu, toujours me concerner avec le bien-être de la personne individuelle, parce que ma relation est en vous. Et une fois que, ce qui m'a aidé de voir ces recherches, c'est qu'en fin de compte, ça ouvre un peu les yeux. On dit, nous on a tendance à soit être ici, puis oh, ces gars-là, c'est n'importe quoi, ils vont détruire l'église. Et puis nous, on dit, oh là là, ces gars-là, ils sont tellement fermes, tellement durs, oh là là, ils font du mal aux gens. On se trouve un peu dans ce... Et Jésus, il vient en plein centre. Il dit, venez, on peut trouver un équilibre. Et en fin de compte, pour l'unité, c'est essentiel que nous, on comprenne, on a besoin les uns des autres. Parce qu'on n'est pas Jésus. On est censé être Jésus ensemble, le corps de Jésus. Mais nous-mêmes, individuellement, on n'est pas Jésus. Donc nous, on a tendance à aller vers ci ou vers là. Et pas trouver un juste milieu. Mais Jésus trouve le juste milieu. Et il nous montre comment le faire. Donc ici, il voit cette femme. Et une des premières choses qu'on voit, c'est qu'il voit son cœur. Il regarde son corps, son cœur. Il ne regarde pas tout simplement, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela. Ben, il ne va pas lui dire d'aller continuer d'être une pécheresse, bien sûr. Il a des convictions profondes. Ben, il est mort pour le péché. Ça, c'est une conviction assez profonde, à mon avis. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Mourir pour le péché, c'est quand même... c'est sérieux, ça. Mais il affirme, elle, je vais la sauver. Je pardonne ce péché parce qu'elle a un cœur. Un cœur ouvert. Un autre passage, pareil, c'est Matthieu 15, même idée. J'ai trouvé ça... Pardon. Voilà. Matthieu 15, verset 21. Ah ben non, je ne suis pas là. Ok. Je vais chercher ici. Je suis désolé. Je crois que je l'avais déjà trouvé dans ma Bible. Matthieu 15. C'est ça. La femme cananéenne. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Passage incroyable, parce que d'emblée, on a l'impression que Jésus va prendre ce côté-ci. Effectivement, je suis là pour le brebis d'Israël. Il l'ignore au départ, il ne répond même pas. Il dit, waouh, ça ne fait pas le Jésus tout gentil qui protège l'individu, ça fait le Jésus qui protège Israël. Puis après, les disciples disent, mais rends-moi là. Puis il dit, ouais, je suis là. Il va là, il répond, il dit, je ne suis pas là pour les non-juifs. Elle est non-juive. Elle ne fait pas partie du groupe. Elle ne suit pas la loi. Elle n'a pas été convertie au judaïsme. Je ne suis pas là pour toi. Donc il affirme quand même la mission de Dieu. Et la femme, elle dit, oui, mais... Et c'est des mots durs. Il l'éprouve vraiment. Là, je crois qu'il, d'un côté, il est en train d'éprouver la foi de la femme pour montrer à tout le monde comment est grande sa foi. D'un autre côté, il pousse un peu les disciples, parce qu'il sait qu'eux, quand ils pensent comme ça, donc il va exposer leur cœur. Alors, il lui dit un truc hyper dur. Bon, voilà, la nourriture des enfants ou chiens. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'aime pas qu'on m'appelle un chien. Ça arrive pas souvent, mais j'aime pas. C'est vraiment dur, hein. C'est des mots très durs, hein. C'est pas la politique correcte, hein. Correct, parce que c'est comment en français ? Politically correct. C'est pas politiquement correct. Hein. Donc il dit ça, et la femme, cette réponse pleine d'humilité. Ah oui, mais même les chiens, ils mangent des miettes. Alors là, il dit, vous voyez son cœur. Et moi, j'écoute à son cœur. Oui, elle n'a pas tout ce qu'il faut au niveau de l'autorité, elle n'a pas accepté la Torah, elle n'a pas tout ce qu'il faut au niveau de la sainteté, de la pureté. Elle n'a pas suivi la loi, elle n'a pas été tout suivi ce que l'Ancien Testament lui disait. Et elle ne fait pas partie de notre groupe. Mais cependant, son cœur, je vais l'accepter. Donc on voit que Jésus voyait son cœur. Et moi, je trouve que c'est un dos. Grand travail à faire, c'est d'apprendre à s'écouter au niveau du cœur, pas tout simplement des paroles, parce qu'on peut faire comme la politique américaine, on se balance des mots les uns sur les autres, on n'écoute jamais. Il faut chercher à cerner le cœur de l'autre, et c'est pas toujours facile à faire. Je me rappelle d'une jeune fille que j'avais vue, je l'appelle Jeanne, je ne sais pas son nom, mais Jeanne, c'était une jeune fille d'une famille chrétienne. J'étais tout départ de ma vocation de psychologue. Elle était venue me voir, ses parents l'avaient amenée, parce qu'ils disent quand même, Jeanne est un peu rebelle. Elle avait la grande sœur parfaite. C'est souvent le cas, hein, vous avez une grande sœur parfaite. Ouais. La grande sœur super obéissante, jamais de conflit avec les parents, elle suivait à 100% la foi de ses parents et tout ça. Mais Jeanne était un peu différente, elle est un peu plus... moi aussi je suis un petit frère, boucle d'oreille, tatou, les petits frères ils font ça, ils poussent un peu les choses. Alors elle était un peu plus, on dirait rebelle, mais pas vraiment un esprit rebelle, elle cherchait sa foi elle-même. Et elle se braquait un peu contre son père qui était vraiment un dur, lui c'était vraiment un dur de dur. Je vous dis, une des premiers entretiens, elle me dit, écoute, j'y vais, pourquoi vous êtes là, blablabla. Il me raconte, il dit, écoute David... On allait à la même église d'ailleurs. Il dit, écoute, dans l'Ancien Testament, hein, les enfants rebelles, ils se faisaient lapider. on ne parle pas de la lapider, je crois. Non, mais c'est pour vous dire, c'est grave, c'est sérieux. Il faut qu'elle se rende compte. Voilà l'écart. Alors, je commence à faire une psychothérapie, parfois en famille, parfois tout seul avec Jeanne. Et moi je ne suis pas son père, moi. Donc, elle ne se rebelle pas contre moi, bien sûr. Mais moi, je dis, mais elle a vraiment un bon cœur. Hein. Elle aime vraiment Dieu. Elle pose des questions profondes. Et une fois, ça m'a bouleversé. Parce qu'elle était dans cette tension avec ses parents, surtout son père. Ma mère était beaucoup plus douce. Mais lui, il ne voyait que son comportement. Il ne voyait que son comportement, que ses paroles. Et c'est vrai qu'il y a un moment, elle a dû se taire. J'aurais fait ceci. Oui, mais pourquoi ? Ben, dis pas oui, papa, tu vas sur la tenue, mais c'est pas son caractère. Alors lui, il l'a traité comme c'était la rebelle du monde. Ben, quand même, elle n'était pas si rebelle que ça. Enfin, un jour, elle rentre, puis on commence à parler, comment ça va? Oh, ça va, ça va. On commence à parler, je repère que ça va pas très bien, et puis tout d'un coup, elle, en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je me dis, ben, il y a eu une autre bagarre à la maison, pas une bagarre, un conflit. Alors, elle me dit, non, j'ai fait une grosse bêtise cette semaine. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, vous tu sais, j'ai un petit ami. Oui. Puis tu sais, j'ai un peu choisi parce que lui-même, il est un peu un tough guy, un peu rebelle lui-même. Puis, mais je l'aime pas, je ne vois, enfin, je l'aime pas, je me vois pas le marier. Puis c'est un peu pour enquiquiner mon papa. Je sors avec moi, il est très honnête. Elle dit, eh ben, je sais pas, cette semaine, j'ai cédé à sa pression et on a fait l'amour, c'est ça? On a fait l'amour. Et puis elle pleure. Je dis, alors, pourquoi tu pleures? Elle dit, mais c'est pas ce que je voulais. J'avais tort. J'ai péché. Donc moi, je vois cette petite fille. Bon, elle aurait pas dû faire ça, mais elle le reconnaissait comme cette femme. Elle savait qui elle était. Comme la première femme de la première histoire, elle vient avec ses larmes. Bon, pas mes pieds, elle n'avait pas les pieds non plus. Mais elle est en larmes. Elle se rend compte qu'il y a un écart entre où elle est et où elle voudrait être. Où elle est, où le Seigneur l'appelle. Et son père ne voyait pas. Je ne sais pas si ça s'est bien passé. Moi, j'en sortais pas. Je n'avais pas de crédibilité au père. J'étais un tout jeune psychologue de 26 ans. Et ça n'avançait pas, donc j'ai proposé, bah, peut-être que vous pouvez voir un de mes profs, qui a beaucoup plus d'expérience. Alors mon prof, ça ne s'est pas très bien passé, parce que lui, quand il lui a sorti le truc de lapider, il n'était pas chrétien. Puis après, moi, j'ai déménagé, j'avais fini mes études. Mais je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce qui est devenu de Jeanne? Parce que moi, je voyais son cœur. Et ce n'est pas parce que je suis Jésus. C'était pas son père, quoi. J'étais un peu plus objectif. Mais nous, il faut qu'on fasse ça avec les uns les autres. Parce que quand on rentre dans ceci, contre ça, et moi, je dis, ouais, toi, tu n'aimes pas les gens, hein, tu es tout sur le groupe. Et toi, tu dis, ah, mais non, mais toi, tu ne prends pas les choses au sérieux, tu es trop n'importe quoi. Tu vois, juste nos cœurs, au lieu de dire, écoute, c'est vrai, il y a des différences. C'est des différences. Si vous votez pour Trump et vous votez pour pas Trump, ben, c'est différent, hein. C'est clair. Mais si je dis, mais vous n'êtes pas les vrais Américains. Vous êtes des anti-Américains. Vous êtes des Russes. Pseudo-Américains. Vous voulez détruire la patrie, bah, on va nulle part. Et si eux disent, ah, vous êtes des libéraux. Vous voulez tuer tous les bébés du monde. Hein? L'avortement, c'est une question comme ça. Bah ouais, on va jamais se comprendre. Mais par contre, c'est marrant, il y a des chrétiens qui votent des deux côtés. On n'en parle pas, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui sont plutôt sur les deux et des personnes qui sont plutôt sur les cinq fondations des jugements. Donc c'est normal, on est tous ensemble dans des assemblées. Alors il faut chercher, parce que qu'est-ce qu'on a dit au départ? Le monde va savoir que je suis Jésus et le Fils de Dieu par l'unité de l'Église. Et c'est à nous de montrer, ben, on ne doit pas se faire la guerre, on ne doit pas se faire des écarts où on ne se parle plus, puis ben, je vais faire mon église à moi et toi tu vas faire la tienne. Non, il faut que nous on apprenne à s'écouter, écouter au niveau du cœur, comme Jésus le fait, discerner le cœur. Bien sûr, la deuxième chose qu'on voit ici, et il faut de la patience pour ça, hein, bien sûr. Moi, ça a pris des semaines et des semaines, de vraiment entrer dans le monde de Jeanne. Parce qu'un adolescent qui rentre en psychothérapie, au départ, il ne te donne rien. Ouais, toi, t'es le gars que mes parents ont embauché pour me dire quoi faire. Tu vois? Donc, ça prend du temps d'établir une relation. Donc, la patience et discernement du cœur. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est l'humilité. Pour vraiment se comprendre, il faut une humilité. Donc, disons qu'on a un conflit sur un thème tel. Je ne vais pas rentrer dans des cas précis, vous pouvez appliquer ça vous-même. Mais on a un conflit. Et si moi, qui suis de ce côté, si je venais et je dis, écoute, je veux parler de cette chose, il va falloir qu'on n'est pas unis là-dessus, il va falloir qu'on ait une autre discussion. Mais je t'avoue que moi,
Je sais, j'ai une tendance non-conformiste. Ouais, c'est pour ça que j'ai la boucle orale et le chapeau. Voilà, 57 ans, mais qu'est-ce qui fait ça, les gars, bidon. Rebelle. Oh, pas rebelle, non-conformiste. Donc j'avoue, j'ai cette tendance de personnalité. Et j'avoue aussi qu'en tant que psychologue, c'est vrai que j'entends toujours les histoires des individus, des personnes individuelles, et que ça me touche le cœur. Et oui, je suis un peu dans l'empathie. Ouais, je suis musicien, je chante des chansons, je suis triste. Voilà, je suis un peu dans l'émotion. Je l'avoue. Donc quand j'aborde ce sujet, je sais que j'apporte ça. Alors toi, de l'autre côté, il faut que tu répondes aussi avec humilité. Au lieu de dire, ah ben c'est bien que tu vois ça, David. Alors maintenant, je vais tout t'expliquer. Maintenant que tu te rends compte que t'es nul, ben, je vais t'aider. Vérité. Moi, je possède. Non, au contraire, si moi je dis, tiens, tu vois, moi par contre, j'ai un passé assez lourd, ou un passé où j'avais aucun respect pour Dieu. Et moi, j'ai une conversion assez radicale. Et donc, pour moi, la ligne entre le monde et le royaume est assez tranchée. Et il faut être radical. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt ingénieur, je ne suis pas musicien, psychologue. Et moi, j'ai bien des choses qui sont très nettes, qu'il y a une formule. C'est comme ça, ça me va bien. Tout d'un coup, on n'a même pas abordé le sujet, mais on rentre dans l'humilité. Alors là, on va avoir une bonne discussion. Il y aura peut-être encore des tensions, mais ça va mieux se passer que si on fait semblant que ces différences entre nous n'ont rien à voir.
Que non, on est tout simplement des têtes intellectuelles qui regardent le texte, et moi je regarde correctement, et toi pas. Et non, c'est moi qui regarde correctement. Non, c'est moi.
Là, c'est pas correct, ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et c'est une formation de famille, c'est une formation de culture. C'est une culture d'église, culture de famille, culture de nation, de groupe ethnique. Tout ça ça nous forme d'un côté ou de l'autre. Et la personnalité, bien sûr, aussi. Le vécu, tout ça nous change.
Donc, il faut discerner le cœur pour trouver cette unité. Il faut l'humilité de pouvoir admettre nos préjugés, la manière dont on est peut-être biaisé. La patience, hein, d'écouter, et dans ce truc d'humilité, il faut se rendre compte qu'on a vraiment, vraiment besoin les uns des autres. Et quand on vient l'un vers l'autre avec humilité, si on est vraiment honnête, on se rend compte, j'ai vraiment besoin de toi. Parce que c'est vrai, moi, de ce côté-ci, je suis tellement dans la dépense de l'individu que je prendrais peut-être des décisions à moi tout seul, et avec les gens qui pensent comme moi, on prendrait peut-être des décisions qui ne sont pas très bien pour le groupe. Ce psychologue dont je vous parlais, il dit que les êtres humains, en fait, on est comme des abeilles. On est en ruche. C'est en ruche, on fait des trucs incroyables en groupe. Ensemble, on construit des bâtiments, on construit des pays, on fait des découvertes, des cures de cancer. En groupe, ce n'est pas des individus tout seuls qui font ça. Donc on est des êtres qui habitent en ruche. Et lui, il explique ça d'une manière très très simple. Il dit, en fin de compte, les libéraux, il parle de politique, les libéraux, ils protègent les abeilles. Les conservateurs, ils protègent la ruche. Sans ruche, il n'y a plus d'abeilles. Mais sans abeilles, tu as des ruches très vides. Comme certaines églises, d'ailleurs. Hein? C'est marrant. On a besoin des uns des autres. Il faut protéger les abeilles et la ruche, parce que ça va ensemble. Et il faut admettre que je ne suis pas Jésus, moi je ne suis pas en plein... Je ne mitige pas bien les choses, je ne suis pas en plein milieu. Enfin, je ne sais pas si ça dit, mais je ne suis pas en plein milieu, moi. Moi, je suis soit là, soit là. Donc, j'ai besoin de toi, l'humilité. Dernière chose, on va arrêter là. Luc, chapitre 9. Luc. Chapitre 9. Et le verset 10. C'est la multiplication des pains. Alors, Jésus a... Bien sûr, on voit encore ce terme d'autorité. Il donne de l'autorité. Il a l'autorité spirituelle, ça existe. Il la donne aux apôtres. Il les envoie. Et ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont fait. Alors, retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retire à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda.
Et encore, il affirme, allez, ensemble, nous, notre groupe, moi et mes disciples, on va se retirer, se recueillir, discuter.
Donc on voit, Jésus ne les met pas à zéro, c'est ce côté-là. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Et Jésus, il dit, allez-vous-en, je protège mon groupe. Non, non, il les accueillit. Il s'ouvre, il y a un équilibre parfait, lui. Il les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et les guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour a commencé à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour y trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Bien sûr, même les disciples, ils ont tendance à penser notre groupe, notre groupe, notre groupe.
Vous rappelez l'histoire où ils voient, ah, les gars là-bas, ils font des exorcismes, ils font, eh, mais ils sont pas avec nous, qu'est-ce qu'on on va leur dire d'arrêter? Et j'ai dit, ben non, ils ne sont pas contre nous, ils sont contre nous. Donc, eux, ils sont un peu dans ce truc de groupe. Mais quand même, ils aiment aussi les gens. Ils veulent protéger les abeilles, eux aussi. Ils disent, ah non, ils vont avoir faim, il faut les envoyer au village, il faut s'occuper d'eux.
Donc, ils ont les deux côtés. Comme on avait dit. Allez. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Une histoire incroyable. C'est la générosité, l'abondance de Dieu. Il y a toujours assez, il y a toujours assez. Et c'est vrai, il y a assez de bien dans le monde pour nourrir tous les pauvres du monde, hein. Si on n'était pas dans l'accumulation, on pourrait s'occuper de tout le monde. Hein. Donc ça, c'est un message assez fort de ce passage. C'est peut-être d'ailleurs le message principal. Mais il y a un autre message qui est assez intéressant. Si vous connaissiez les coutumes des Juifs, les Juifs religieux, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est les, c'est la communion de table. On mange à table qu'avec les personnes. Manger avec quelqu'un, c'est donner une approbation. Donc, si je suis juste, je ne mange pas avec les pécheurs. Je ne peux pas. C'est presque comme donner mon approbation que ouais, c'est bon, tout est bien. Donc, ils avaient cette habitude, on mange qu'avec. C'était assez strict. On mange qu'avec les personnes de notre groupe. Et c'est vrai, on voit souvent les Sadducéens et les pharisiens, ils sont souvent en train de se disputer, ils demandent à Jésus de prendre part. T'es avec nous ou t'es avec eux? T'es avec qui? Et le truc qu'il fait ici, c'est génial. Il prend toute la foule, il les met tous à la table ensemble. Un grand repas, une grande agape. Mais t'as des gens qui sont là pour dire, ouais, on va le tuer, hein, ce gars-là, il est contre nous. Et il y a des autres qui disent, ah, Jésus, guéris-moi. Il y a d'autres qui disent, ouais, il fait beau le soleil. Il y a aussi les voyageurs du dimanche, quoi. Et puis, il y a tout ça ensemble, et Jésus dit, allez, tous à table, du pain et du poisson pour tout le monde. Il les a forcés à être à la table ensemble. Oh, c'est fort, ça, hein. Donc, il dit, oui, le royaume, il parlait que du royaume, donc il parle du groupe, le royaume de Dieu. Mais il ouvre ce groupe, il ouvre. Il dit, allez, rentrez tous, allez, maintenant je vais vous mettre en relation les uns avec les autres. Donc, je reviens à ce que j'avais dit plus tôt, c'est Dieu qui crée l'unité, c'est à nous de se soumettre. Ben, comment on fait ça? Une des choses que je deviens de plus en plus persuadé, c'est que Dieu nous met à table ensemble. Si vous êtes là aujourd'hui,
d'une manière ou d'une autre, Dieu vous a mis à cette table. On se retrouve à la table ensemble. Et parfois, je dis, mais ce serait beaucoup plus chouette si Pierre n'était pas à notre table. Il ne pense pas que moi, il est différent, il y a des drôles d'idées sont venues. Et Richard, on n'en parle même pas. Tiens, ce serait beaucoup mieux. Ou alors, non, avec Hubert. Tu trouves une autre table, Hubert? Eh bien, ça. Regardez cette table. Non, il dit non, je vous mets à table. Allez, c'est moi qui crée l'unité. Allez, maintenant, faites votre travail. Travail d'humilité, travail d'écoute, travail de patience, travail de discerner le cœur et pas simplement le comportement. Je suis certain, pas certain, c'est trop fort, je pense, que quand je lis les Écritures, on passe aux évangiles, des évangiles aux lettres, et on voit que Paul et Pierre et Jacques, les écrivains des lettres, ils prennent des décisions pastorales pour cette assemblée ou pour celle-là, parfois pour plusieurs. Ils disent, ben voilà, on est à table ensemble à Corinthe, on est à table ensemble à Éphèse, et on a des problèmes à gérer. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours la même chose. C'est parfois, il dit, il faut avertir quelqu'un 3 fois, parfois c'est 2 fois, parfois c'est 1 fois. Mais c'est quoi ce truc? On a le même Jésus en Jean chapitre 8. On lui apporte une femme adultère et lui dit, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils savent très bien. La Torah, il faut la lapider. La loi, la sainteté, la pureté. Nous, les Juifs, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et il dit, bah moi je la protège. Que le premier qui est sans péché lance la pierre. Donc il n'a pas jeté la loi. Mais il est tombé au milieu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une question que de la lettre. C'est une question de son cœur, mais pas que de son cœur, du cœur des autres. C'est très important pour Jésus. Mais pourquoi ça vous intéresse la loi? En fin de compte, c'est pas vraiment la loi qui les intéressait. C'était leur truc intérieur, la jalousie envers Jésus.
Ils essayaient Ils essayaient de le coincer, c'est ça. Donc Jésus a dit non, non.
Par contre, quand on arrive à Corinthe, il y a un frère qui dit ouais, la grâce de Dieu, ouhou, c'est super la grâce. Moi, j'ai couché avec ma belle-mère, ouhou, la grâce. C'est un type qui prend vraiment, c'est du délire ça. Alors Paul il dit mais qu'est-ce que vous faites? Mais même les païens, ils font pas ce genre de truc. Mais il faut le mettre à la porte, ce gars-là. Ah, on a l'équilibre. Il protège le groupe. Ah oui, mais l'assemblée, si tout le monde fait du n'importe quoi, ça devient quoi? Il n'y a plus de ruche. On n'est plus le royaume de Dieu. Oh, non plus la représentation du royaume de Dieu, de son règne. Alors là, mais c'est des situations très différentes. Mais l'adultère, c'est l'adultère. Mais dans la situation de la femme en Jean-Louis, il tranche d'une manière. Parce que là, ce qui. Il a peur. Pas peur. Et son souci, c'est la motivation des gens. On dit, on ne va pas protéger la ruche de cette manière-là. Mais ici, c'est un problème différent. Donc, il faut constater ce genre de choses.
Souvent, je crois que nos conflits deviendraient beaucoup, beaucoup plus simples si on gérait tout simplement, au concret, les personnes, les situations à notre table. Au lieu de dire, non, on peut décider pour tout temps, dans tout endroit. Il y a des vérités absolues. Jésus est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Ça, c'est tout temps, tout endroit. Hein? Amen. Mais pas tout. Par exemple, quand j'étais à Boston, en église maison pendant 2-3 ans avant de déménager à Milène, on était en église maison, une petite quarantaine. On était à 20, et après c'est devenu 40. Puis on se divisait en deux églises maison, parce que 40, un repas commun, c'est pas évident, il faut une grande table. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui est venu, très engagé dans sa foi, des fois profonde, mais il y a vraiment un décalage au niveau de la doctrine. Il ne croyait pas en la Trinité. Il croyait que Dieu est Dieu, le Saint-Esprit, bah, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Puis Jésus, bah, c'était un homme que Dieu a rendu divin. Ok, intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors moi j'ai eu des discussions avec lui, je dis bah, il était très enthousiaste dans le groupe, il était très bon chanteur, très bon à la musique, lui et sa fiancée voulaient des conseils pour améliorer leur couple et se marier. Ils m'ont demandé de les marier d'ailleurs. Et ils étaient très obéissants. Et dès que tu leur donnais des conseils, ok, super, on obéit d'un très bon cœur. Mais il y avait ce problème de doctrine, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il est notre frère? Est-ce qu'il n'est pas notre frère? Ben, il n'y avait pas une décision à faire pour toutes les situations du monde comme ça. On est à 20, 40. Ce gars, on le connaît tous. On connaît tous qu'il y a un décalage entre ce qu'il pense et ce qu'on pense. Alors je vais parler honnêtement. Mais écoute, on a eu des longues discussions à ce sujet. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as vraiment du mal à défendre ta position. Tu es sûr de toi, mais tu n'arrives pas à utiliser les écritures. Quand on a une discussion, tu dois toujours repartir à un ancien pasteur dans une ville et tu reviens. Donc il faudrait que tu parles à ton pasteur, alors à la limite. Mais donc, voici, c'est clair que tu aimes le Seigneur. Donc tu fais partie de nous, on t'accepte. Mais par contre, tu ne vas pas enseigner. Pas parce qu'on n'est pas d'accord sur cette question de trinité et unitarienne. Pas à cause de ça, mais parce que le fait que tu n'as pas le talent. Tu n'as pas la vocation d'enseignant, parce que ça se voit, tu ne connais pas tes écritures. Donc je t'encourage de continuer avec nous. On t'accepte. On loue le même Seigneur. On a la même valeur de manière de vivre. Mais tu ne vas pas être enseigné. Il a accepté. Donc il reste avec nous.
Ben, ça s'est très bien passé au fil de certains quelques mois.
À un moment donné,
il avait invité une personne qui était un peu dans son truc à lui. C'était un truc un peu pentecôtiste, un peu. Enfin, bref, je ne veux pas utiliser des étiquettes. Mais et il a dit ouais, j'invite un de ces gars que moi j'ai beaucoup respecté. Et j'ai dit ok, ben, tu m'en parles. Il m'en a parlé. Et j'ai lu un ou deux livres de ce gars avant qu'il vienne. J'ai dit ouais, j'ai lu ces livres. Je trouve ça pas très convaincant. Je n'ai pas trouvé ça très. Mais j'ai quand même pris le temps de le lire. Il dit, ouais, le gars, je l'invite et puis j'organise une soirée d'enseignement. Est-ce que je peux inviter les gens de l'Assemblée, enfin, de l'Assemblée, de l'Église Maison? Je dis, bon, bien sûr, mais je te dis d'avance. Hein. Nous, on prend la vie très au sérieux. Donc, c'est très possible qu'il y ait des gens, ça ne les intéresserait pas. Moi, je ne peux pas leur dire pas d'y aller. T'es mon frère, je t'accepte. Mais par contre, ils ne sont pas intéressés. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Il a annoncé ça, les gens ont dit, oh, c'est quoi? Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. La Trinité, je ne la remets pas vraiment en question, moi. Amuse-toi bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Il n'y a personne qui avait été, en fin de compte. Et puis après, il a été heurté par ça. Et petit à petit, il est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, mais on a un très bon rapport. Il a vu, tiens, ouais, c'est pas ma ruche, hein, celle-là. Mais on ne l'a pas viré, la ruche. Il a constaté, donc on est resté en paix. On est resté en paix. Tous les ans, je souhaite bon anniversaire, comment vont les enfants? Il y a des enfants maintenant, comment va le mariage? Mais je veux qu'ils réussissent dans ma vie. Donc ça, c'est un exemple. Ben, est-ce qu'on peut faire ça à Lille? Ben, on sait rien, peut-être pas. Peut-être que vous êtes trop. Peut-être que, je ne sais pas, ça ne marchera peut-être pas ici. Mais ça simplifie les choses. Nous, c'était tout simplement arranger ça pour notre groupe. Mais il n'y avait personne dans le groupe qui allait se faire la tête. Oh mon Dieu, on a accepté un unitarien. Oh mon Dieu. Non, parce qu'on le connaissait. On dit, ouais, il est sympa, mais ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très bien sa vie. Et ouais, on a essayé de lui enseigner ce que nous, on pense à la vérité au sujet de la Trinité. Et pour l'instant, il ne voit pas ça. Mais on va pas faire de rupture, quoi. On va être unis. Donc tout le monde était au courant. C'était facile. C'est vrai que c'est facile, parfois, un groupe de 20 ou 40. Hein. Mais moi, je ne vais pas prêcher ça partout. Voilà la manière d'accepter les personnes qui ont des doctrines différentes. Ah non, parfois, ça ne marche peut-être pas du tout. Mais rester humble, être à l'écoute, surtout l'écoute du cœur les uns des autres, et décider les choses d'une manière pastorale pour notre situation à nous. Ce n'est pas que la vérité change, c'est pas que Dieu change. Mais le contexte, les personnes, ça change parfois. C'est pour ça que Paul, il fait des drôles de trucs. Là, ok, d'accord. Je vais, circoncire Timothée. Ah oh, non, pas du tout, je ne vais pas le circoncire Tite. C'est quoi? T'es maniaco-dépressif, Paul? Tu changes tous les jours? Non, c'était un contexte différent. Décision différente pour l'évangile, pour les gens. Ici, il ne voulait pas heurter les gens. S'il voulait les ouvrir, les juifs, au Messie. Donc, ok. Mais ici, ah non, vous êtes déjà baptisés et vous voulez maintenant réintroduire les coutumes des juifs comme nécessaires pour le salut. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Donc, décision pastorale très différente dans deux cas différents. C'est net.
Et je crois que ça simplifie. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop psychologique, mais moi, C'est pour moi, c'est une passion. C'est le désespoir et l'espoir, tout d'un coup. Le désespoir, c'est que, en tant que chrétien, il faut qu'on trouve des moyens d'être unis. Et pas seulement unis avec des personnes qui sont tout comme moi ou tout comme moi, mais vraiment d'être unis. Et de chercher à apporter de la paix, être des artisans de paix. Pas au niveau théorie, mais au niveau vie. Dans notre assemblée, dans nos familles, parmi nos assemblées, entre nos assemblées et d'autres. C'est chercher Dieu, je ne sais pas comment tu vas unir ton église. Moi, je n'ai aucune idée. Il y a vraiment des différences assez énormes parfois. Mais prier continuellement, apporte ta paix. Et moi, je veux être un artisan de paix. Et je vais faire avec humilité, me rendre compte que je ne lis pas les Écritures strictement intellectuellement. Je vais faire l'écoute du cœur des autres, écouter au cœur, pas tout simplement le comportement, pas tout simplement les paroles, pas tout simplement les différences, mais vraiment leur cœur. Entre fond des choses dans la relation. Et après ça, pas amener tous les conflits à un niveau mondial universel. Parfois, c'est un conflit ici, on peut régler ici. On ne décide pas pour tout le monde à tout temps. Et, mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas abandonner cette recherche, cette, ce désir, cette prière de Jésus. Prière pour l'unité des croyants, comme ce poème de Saint-Exupéry. Si ensemble, on parle, on discute, on essaie de résoudre nos problèmes, mais on regarde le salut du monde. Le salut du monde, l'exemple au monde, la paix pour le monde. C'est ça notre but et c'est pour ça qu'on va rester ensemble et qu'on va essayer de trouver ces solutions. Parce qu'on regarde devant au lieu de se regarder que les uns les autres. Amen. Amen.